Les rapports de l'Église catholique avec le communisme au XXe siècle ont été complexes et mouvants, entre condamnation doctrinale et réalisme politique. Historien de la faculté de théologie du Latran, le professeur Philippe Cheneau vient de publier aux éditions du CERF « L'Église catholique et le communisme en Europe », ouvrage qui profite des archives nouvellement ouvertes au Vatican sur le pontificat de Pie XI et montre bien la valse hésitation des rapports du Saint-Siège avec le communisme et les communistes. Or, si ces rapports ont beaucoup bougé, n'y a-t-il pas eu des grandes constantes également ?
Indiscutablement, notamment si on se place du point de vue de Rome, de la papauté, il y a des constantes. J'en vois deux principalement, c'est-à-dire une grande fermeté doctrinale pour condamner le communisme, tant comme doctrine matérialiste et athée, que du point de vue de la pratique communiste, du système communiste en tant que système totalitaire qui nie au fond les droits élémentaires de la religion mais aussi de la personne humaine. Et la deuxième constante que je verrais, c'est qu'au fond, cette préoccupation pastorale qui n'a cessé d'animer les papes tout au long du XXe siècle, qui les a conduits au fond à chercher à garantir la survie de l'Église dans ces pays qui étaient soumis à l'oppression totalitaire. Et ce qui a débouché sur la mise en œuvre d'accords concordataires avec ces régimes, avec l'Union soviétique dans les années 20, et surtout au lendemain du Concile, la fameuse Ostpolitik mise en œuvre par Jean XXIII et poursuivie par Paul VI.
Les papes, en fait, au cours des évolutions de la politique, notamment avec la révolution bolchevique et la suite, ont changé de position vis-à-vis du communisme.
Disons qu'il y a une évolution, qu'on constate une évolution chez Pie XI, qui dans les années 20 cherche précisément à trouver une forme d'accord avec le régime soviétique pour garantir les droits de l'Église, et qui, devant l'échec de cette politique, rédige son discours et en vient à prononcer un certain nombre d'anathèmes contre le communisme qui trouveront leur conclusion dans la fameuse encyclique Divini Redemptoris de mars 37, qui est le grand texte de référence de condamnation du communisme par le magistère de l'Église au XXe siècle. Donc on constate un raidissement progressif qui l'a conduit donc à publier cette encyclique contre le communisme athée qu'il définit comme une idéologie intrinsèquement perverse, et avec laquelle toute collaboration est interdite pour les catholiques.
Chez Pie XII, on trouve aussi un mouvement comme ça de changement.
Pie XII a dû gérer une situation encore plus difficile, puisque, au fond, au lendemain de la guerre, l'autre grand péril pour la foi chrétienne, qui était le nazisme, est défait et vaincu. Donc il ne reste plus que le communisme. Et on entre dans une nouvelle période de l'histoire de l'Europe au XXe siècle, période la plus tragique pour l'Église, qui est celle de la guerre froide. Par la force des choses, l'Église de Pie XII se trouve, pour ainsi dire, comme identifiée à l'Occident dans la défense des valeurs élémentaires de la liberté, de la dignité de la personne humaine contre l'oppression totalitaire. Et de fait, le pontificat de Pie XII est marqué par un anticommunisme qui est très fort. Et en 1949, le Saint-Office publiera un décret interdisant aux catholiques toute collaboration avec le communisme ou avec les partis communistes ou les mouvements qui s'en réclament, sous peine d'excommunication. Donc là, on atteint le point culminant de cet affrontement entre l'Église et le communisme au XXe siècle, au tournant des années 50.
Pourtant, chez les intellectuels et les laïcs catholiques sur le terrain en France, par exemple, ou en Italie, il y a une attitude parfois de collaboration avec les communistes ?
Oui, c'est ça le paradoxe. Il y a une grande séduction, une attraction pour le communisme, et d'aucuns seront tentés de répondre positivement à l'appel à la main tendue du secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, qu'il lance à la veille des élections d'avril 36, qui porteront au pouvoir en France le Front populaire. Et j'ai repris d'ailleurs en exergue de livres un jugement de Maritain sur le communisme, où il dit au fond que le communisme est la dernière hérésie chrétienne. Et c'est ce qui l'a rendu particulièrement pervers, mais c'est ce qui a aussi fait qu'il a séduit beaucoup de chrétiens et beaucoup de catholiques, notamment parmi les intellectuels.
Est-ce que cette séduction continue justement dans le Concile Vatican II, dans un changement d'attitude de l'Église vis-à-vis des communistes, peut-être plutôt que du communisme ?
Disons que le Concile marque indiscutablement un tournant. Le pontificat de Jean XXIII est de ce point de vue-là tout à fait exemplaire. La publication de Mater et Magistra et surtout la Pacem in Terris, tout cela a indiscutablement ouvert la voie, en tout cas légitimé ceux qui, au lendemain du Concile, ont voulu poursuivre et s'engager dans la voie du dialogue. Et il faut ajouter aussi que le Concile par la volonté expresse de Jean XXIII, mais aussi de Paul VI, n'a pas voulu prononcer de nouvelles condamnations formelles du communisme.
Et quand Jean-Paul II accède au pontificat, lui qui a vu le communisme de Pologne, il a une vision différente de ceux qui l'ont vu de Rome, de leur bureau de la Curie ou des villages italiens ?
Ah, c'est sûr, c'est un autre grand tournant. Les origines polonaises de Jean-Paul II sont décisives, puisqu'il a une expérience personnelle de ce qu'a pu signifier la mise en œuvre de ces idéologies du mal absolu qui étaient le nazisme d'abord et le communisme ensuite. Et puis, il a aussi un regard décentré sur ce qu'est l'Europe, l'unité de l'Europe. Et je crois que le grand dessein stratégique qu'il a voulu mettre en œuvre à peine élu, c'est de libérer les peuples de l'Est de l'oppression totalitaire et de reconstruire la maison commune des peuples européens. Peut-être à la différence de ses prédécesseurs, il n'estimait pas que le communisme allait durer encore très longtemps. Le présupposé de l'Ostpolitik Vatican, c'est qu'on en avait pour un certain nombre d'années avec le communisme. Donc il fallait, autant que faire se peut, essayer de s'arranger avec lui pour essayer de garantir un minimum de survie à l'Église dans ces pays. Or Jean-Paul II voyait bien que peut-être le communisme était moribond et qu'il fallait lui donner au fond le coup de grâce. Et il a compris ça de manière magistrale, mais ça pour autant marquait une rupture avec ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Je crois que ce qui a beaucoup compté aussi et qui montre qu'il y a tout de même alors là aussi une grande continuité, c'est l'expérience du Concile. Indiscutablement, Jean-Paul II est un enfant de Vatican II. Il n'a cessé, durant tout son pontificat, de se référer à cette expérience extraordinaire qu'avait été le Concile Vatican II et au grand texte du Concile, qui était pour lui la Gaudium et Spes, précisément, et la déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae. Et il n'a cessé, depuis le début de son pontificat, de marteler ce thème des droits de l'homme et de la liberté religieuse comme critère du progrès civil et humain de toute société, de toute civilisation. Et ça, ça a été tout à fait décisif. Sans parler de son appel à la nation comme telle, la nation polonaise en l'occurrence, puisque au fond, tout est parti de la Pologne.
Goodbye, au revoir. Si ritrova pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò.